Bonsoir Nicolas de Le Salle,
Bonsoir.
bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Merci d'être venu, Nicolas de Le Salle, à la rencontre de vos lecteurs bordelais chez Mola pour cette présentation de votre premier roman, Un parfum d'herbe coupée. Alors, comme c'est votre premier roman, bien sûr, c'est une découverte. Et c'est une découverte d'autant plus que la collection Prélude est elle-même nouvelle. Donc, en fait, c'est aussi une rencontre entre cette collection et votre roman. Et qu'est-ce qui, à votre avis, fait la réussite de cette rencontre ?
La réussite de cette rencontre, elle a un nom. Elle s'appelle Véronique Cardi, qui est une amie depuis quelques années, en fait, qui me poursuivait depuis pas mal de temps en me disant « Alors, quand est-ce que tu me donnes quelque chose ?» qui était éditrice avant d'être au livre de poche chez Belfond. Et puis moi j'avais des trucs, je me disais ouais, mais je suis pas prêt, c'est pas encore pour maintenant. Et puis parallèlement, moi j'écrivais des, j'ai écrit un autre roman, un très mauvais que j'ai gardé pour moi. Et puis j'ai commencé à écrire des choses sur Internet en fait, d'abord sur Twitter, des tweet stories diverses et variées, et puis certaines qui touchaient à l'enfance. J'arrivais pas loin de la quarantaine. Et puis ensuite j'ai créé un blog pour les abriter. Et puis ensuite il y a tout un cheminement de domino en fait. Et ensuite il y a Storylab, une maison d'édition numérique qui m'a contacté pour éditer une partie en fait de ces récits. Ma femme m'a dit n'y va pas, qu'est-ce que tu vas faire dans le numérique? Envoie au moins d'abord à des éditeurs papier. Puis, en fait, moi, j'ai fait confiance à certains de mes amis. Je dis, bon, plutôt, je sais d'avance, plutôt des nouvelles, ce sont plutôt des nouvelles, que les éditeurs papier ne sont pas hyper friands de nouvelles en France. Je vais le faire. Et donc, on en a édité 8 comme ça chez Storylab, 8 histoires qui sont dans ce bouquin, qui est une construction, en fait. Hein, c'est un Lego, ce livre, qui a eu le prix du livre numérique des lecteurs en 2013. Et Véronique Cardi, au même moment, a été nommée directrice du livre de poche. Et avec, dans l'idée, je ne le savais pas, mais de créer une nouvelle édition au livre de poche, moyen format. Et elle m'a dit, mais t'en as d'autres, des textes sur l'enfance? Moi, je pensais que ça allait finir la version numérique en livre de poche classique. Je dis oui, j'en avais choisi un peu au hasard une huitaine, donc j'en ai une quinzaine. Donc je t'envoie les 7 autres. Donc je lui ai envoyé les 7 autres. Et elle m'a demandé après, mais tu en as d'autres? J'ai dit non. J'en ai d'autres qui n'ont rien à voir avec l'enfance, des histoires. Et elle m'a dit, mais t'as pas envie de faire un vrai livre? Je lui ai dit, qu'est-ce que t'appelles un vrai livre? Un livre avec un fil rouge, avec un truc et un machin. Et ensuite, ça a été facile parce que j'avais bien une quinzaine ou une vingtaine d'autres histoires dans la tête que j'avais pas mis en page, en fait. Enfin, pas mis en mots. Et je les ai mises en mots au printemps dernier. Et ensuite, le fil avec Anna s'est déroulé hyper, hyper naturellement. Et ça a donné... d'où ça part, quoi. Ça part pas du tout de l'idée « je vais écrire un bouquin sur l'enfance et je suis devant la page blanche et je commence à écrire ». J'ai écrit sans l'idée d'écrire un bouquin.
En fait, vous aviez déjà des textes sur l'enfance.
Voilà, mais que j'écrivais avec une espèce de spontanéité, c'était pas du tout... dans le but de...
Mais vous avez déjà donné le thème majeur, bien sûr, de votre livre, hein, Un parfum d'herbe coupée, parle de vos souvenirs d'enfance, mais finalement des souvenirs d'enfance de tous un chacun, du passé et peut-être même de l'avenir, puisque vous avez évoqué Anna, le personnage d'Anna. C'est aussi un motif qui donne comme un fil, ou comme une intention, en tout cas, au livre. Celle de léguer au futur et à de futurs et hypothétiques descendants sur cette planète un petit bagage de...
Ouais, voilà, il y a des gens qui... On peut léguer de la vaisselle, des meubles, un capital immobilier. Moi, je voulais léguer des souvenirs, en fait. Il y avait cette espèce de frayeur, évidemment, de la disparition totale. Hein, et que j'avais très peu de souvenirs de mes arrière-grands-parents. Il y a seulement 2 générations. J'avais un prénom sur 8, si je recherchais dans ma mémoire. Évidemment... C'était facile d'aller voir mes parents pour avoir les vrais prénoms. Mais instantanément, comme ça, j'en avais 1 sur 8. Et je me suis dit, zut, quand même, c'est les grands-parents de mes parents. Donc, c'est-à-dire dans 2 générations, les filles de mes filles, les filles de filles de mes filles ne sauront pas mon prénom. Bah, je vais leur raconter un peu ce que... Voilà. Et ça s'est cristallisé sur l'enfance Parce que à ce moment-là, c'était les souvenirs qui me paraissaient les plus clairs, les plus cristallins. Le passé récent était plus flou encore. Il fallait bien le digérer, quoi. Et alors que là, tout était très facile à écrire, tout était là.
Clair, cristallin, mais quand même aussi très énigmatique, parce que ce qui revient très souvent dans les petits chapitres hein, qui composent votre jeu de Lego, c'est justement d'une part le mystère de la réminiscence, hein, dans les moments les plus adultes, puisque vous avez une vie tout à fait adulte de journaliste et beaucoup d'expériences d'adulte aussi dans votre vie déjà à 40 ans. Et dans ces moments, quelquefois, surgit un souvenir d'enfance de manière très, très mystérieuse, finalement. Vous faites un peu une enquête proustienne, mais dans un autre style, puisque c'est par petits chapitres, encore une fois, ciselés, et pas par très, très longues analyses et par tomes successifs, hein, comme dans La recherche du temps perdu. Mais enfin, il y a quand même cette intention de creuser le mystère de la réminiscence.
Ouais, il y a ça. Donc le parfum de l'herbe coupée, c'est le qui donne le titre. C'est une histoire qui m'est arrivée en reportage à Budapest où c'est l'hiver, le Danube est gelé et juste le taxi met la radio et il y a How Deep Is Your Love des Bee Gees qui me renvoie instantanément, mais vraiment instantanément, dans ce canapé de printemps de mes 12 ans ou 13 ans, je sais même pas quel âge j'avais précisément, où pour la première fois de ma vie, je me suis senti bien et je savais que j'étais bien, alors qu'il se passait absolument rien. Et en effet, c'est un vrai mystère pour moi, ce qui reste, pourquoi ça reste. Je crois que je parle à un autre moment d'un instant idiot, enfin idiot, banal, de soupe, je me rappelle du bruit des cuillères dans les assiettes. Et juste, il neige dehors, dans cette petite maison de banlieue. Il neige 1 cm, mais c'est arrivé 100 fois. Mais cet instant-là, dans la cuisine au bois clair, il est resté. Pourquoi celui-là est resté? Il y a ça. Et il y a les instants T, les instants où il y a un avant et un après. Ces instants où il se passe quelque chose qui change littéralement votre cerveau. On le sait depuis l'invention de l'IRM que notre cerveau est plastique, qui change en permanence. Pendant que je vous parle, là, vos cerveaux changent, mais vraiment, on peut le vérifier. Et donc, il change en permanence. Et il y a un moment, il y a un changement qui fait que on change de paradigme. Et je suis fasciné en fait par ces instants-là. Et dans beaucoup des histoires que je raconte, c'est pas tant des histoires de nostalgie, de mélancolie, je tente. Je fais de la chirurgie, j'essaie d'analyser qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi cet instant-là m'est resté. J'ai pas de réponse, mais j'essaie de mettre des mots dessus pour essayer en tout cas de cerner le problème.
Oui, les chapitres sont courts, mais en même temps, l'instant que vous décrivez est tellement court lui-même qu'on a un effet de loupe, de grossissement, de zoom, qui est très nouveau finalement. Ce que vous avez écrit là, personne ne l'avait jamais écrit, alors que ces instants-là, tout le monde les a vécus ou presque. Enfin, on se reconnaît très facilement dans ce que vous
Ça,
écrivez.
c'est ce qui m'a beaucoup
Le
surpris
premier baiser, etc.
dans les retours, c'est que moi, au mois de, je crois que c'est au début août, j'ai appelé Véronique où je lui ai envoyé un mail en lui disant, mais qui ça va intéresser? Enfin, mais c'était sincère, hein, c'était pas de la. Je me demandais comment ça pouvait toucher d'autres personnes, à part mes proches ou les gens qui. Et depuis la sortie du bouquin, j'ai eu des témoignages. Alors évidemment, on peut dire que c'est un bouquin générationnel, puisque je parle beaucoup des années 80, mais ce qui m'a plus touché, c'est que voilà, il y a une dame de 85 ans qui est venue lors d'une rencontre dans une librairie à Paris et qui l'avait lu 2 fois. Une dame de 75 ans dans son lit d'hôpital, qui était vraiment plus en état de parler, à qui on a lu le bouquin et qui n'a pas pu dire qu'elle aimait, mais elle a serré la main de la fille en pleurant, qui lui lisait. Donc un gamin de 11 ans, bon, plutôt malin le gamin de 11 ans, hein, parce que. Mais qui m'a
Électeur.
dit, j'ai tellement kiffé comment t'écrivais avec tes mots et tout. Et ça m'a surpris que ça puisse. C'est-à-dire que lui, en plus, il n'avait pas encore l'expérience de ces souvenirs-là. Il était en train de les vivre au présent. Mais pourtant, ça, par ricochet, il avait. Bon, c'était son père, c'était un ami. Il imaginait la jeunesse de son père. Mais tout, voilà, cette espèce de. Et je pense, enfin bon, c'est un peu bizarre d'en faire l'analyse moi-même, mais je pense que c'est parce que je l'ai écrit de façon hyper simple. C'était comme un verre d'eau, quoi. C'était une évidence. T'as soif, tu bois, tu dois l'écrire, tu l'écris.
Oui.
Et c'était et du coup, j'imagine que les lecteurs, il y en a plein d'autres qui n'ont pas été sensibles, hein, mais ceux qui ont été sensibles ont été sensibilisés aussi et ont pu s'accaparer leurs propres souvenirs, enfin y trouver leurs propres souvenirs. Je ne sais pas, parce que c'est très spontané.
Oui, c'est limpide, ça, cette limpidité de la langue aussi, hein, qui fait que peut-être l'expérience du blog auparavant, mais il y a une immédiateté du contact avec le lecteur et de la réception du texte, hein, qui est très frappante et encore une fois qui est de notre époque, quoi, qui est de vous.
Qui est aussi journalistique, je pense. Il y a un vrai. Quand on est journaliste, on n'est pas universitaire, donc on écrit pour être lu et on a une concurrence à l'heure d'Internet effrayante. C'est-à-dire que bah, si on n'a pas saisi, crocheté par un hameçon, quel qu'il soit, l'intérêt du lecteur au bout de 5 lignes, on l'a perdu. Et donc moi, je passe ma vie à essayer, c'est vraiment mon travail quotidien, de trouver les mots, de trouver la ligne. Je donne des cours à l'IJBA, ici à Bordeaux, et je le dis souvent aux étudiants, on a beaucoup de leçons à prendre des scénaristes de séries américaines aujourd'hui, parce qu'ils captent votre intérêt en 8 secondes. Les 8 premières secondes de Breaking Bad, la série, c'est un type en slip, un vieux type en slip, dans le désert, à côté d'un camping-car, qui avec son arme, il y a des flics qui arrivent. Et immédiatement, on a envie de connaître la suite. On a envie de dire, qu'est-ce qui va se passer? Et je pense qu'en tant que journaliste, en tant qu'écriveur, écrivain, j'ai le même souci d'essayer de capter. Proust n'avait pas du tout ce truc-là. Vous voyez ce que je veux dire?
On avait le temps.
On avait le temps. On pouvait partir beaucoup plus dans une langueur et se laisser porter par les mots. Et alors, peut-être c'est un défaut, mais en tout cas, c'est ce qui caractérise mon écriture. Une forme de recherche d'efficacité dans la narration.
Donc, c'est un pli que vous devez à votre métier de journaliste?
Oui, qui n'est pas venu tout de suite, hein, qui est venu au fur et à mesure, en fonction des réactions par rapport aux articles, par rapport à ce qui. Parce que moi, je suis très mauvais juge de ce que j'écris. Et parfois, j'avais l'impression d'avoir fait un super papier, personne ne réagissait. Et d'autres fois où j'avais posé les mots comme ça, et j'avais des réactions, et je me disais, quelle est la différence? Un détail qui n'a rien à voir avec notre discussion, mais dans les papiers journalistiques, plus vous mettez de citations, plus les gens lâchent, en fait. Donc, quand vous ouvrez une citation, quand vous ouvrez des guillemets, il faut que ça soit très, très fort. Il faut que les lecteurs se disent waouh, ça le journaliste n'aurait pas pu l'écrire lui-même. Quoi. Et nous, quand on sort d'école de journalisme, souvent on est des espèces de prêtres de l'objectivité, donc on ne se mouille pas, on fait parler un tel, et le journaliste est nulle part. Et en fait, la colonne vertébrale du papier est nulle part. Et c'est la même chose pour cette écriture-là, en tout cas, c'est que je veux qu'il y ait des nerfs, des muscles et une colonne vertébrale, quelque chose qui donne envie d'aller à la prochaine ligne.
Et ce qui donne envie aussi, c'est que vous vous mouillez, justement. C'est-à-dire que vous dévoilez quand même des choses qui sont assez culottées, ou déculottées d'ailleurs,
ouais.
En l'occurrence. Mais
ouais, par rapport à ce que j'aurais pu faire. Mais,
voilà, mais on se dit quand même, il faut du cran. Par exemple, votre obsession d'enfance, hein, encore une fois, bien sûr, c'est très loin de vous et de l'adulte, hein, mais cette obsession de savoir par où le sperme sort.
Oui, mais ça, c'est parce que c'était.
Et encore une fois, ça, on l'a lu nulle part avant vous.
Oui, mais c'était. Je ne sais pas, vous voyez, il y a comme un truc. Vous savez qu'il y en a une que je n'ai pas écrite, en fait, et que je vais écrire, j'espère, dans l'édition du livre de Poche, quand il sera Poche.
Un bonus.
C'est qu'il y a un truc, je pense, moi, quand j'étais gamin, une fois, j'ai été mordu par un chat, et j'étais persuadé d'avoir la rage. Et j'ai ouvert un livre du Larousse médical, et en plus d'avoir la rage, j'avais la peste, bubonique, j'avais tous les trucs, quoi. Et je pense que ce truc qu'on a tous vécu à un moment où on est avec le livre et on se regarde dans la glace, je bave ou je suis en train de mourir. Et voilà, c'est des souvenirs qu'on a tous vécu, mais qui sont tellement peu importants que ouais, personne n'avait mis les mots dessus avant, quoi.
Sauf si on devient vraiment hypochondriaque et qu'on est Jérôme qu'à Jérôme, quoi.
Voilà. Mais sinon, oui. Mais sinon, voilà, il y a beaucoup de choses. Comment on roule une pelle? Tout le monde est passé par là, quoi. Et puis il y a quelques générations, quoi. Et Internet n'aide pas la jeune génération.
Mais c'est ce que vous dites, ouais. Très bien.
Ça, c'est quand même une bonne revanche. Ils sont dans le même état que nous, c'est-à-dire à droite, à gauche, je roule pas. Qu'est-ce que ça veut dire, quoi, rouler une pelle? Et donc voilà, mettre en mots tous ces petits instants qui ont l'air de rien. Vous savez, le blog, il s'appelait pas du tout Un parfum d'herbe coupée. Moi, j'étais contre ce titre. Je le trouvais un peu niais.
Le goût des papilles, c'était pas mal.
Moi, c'était à peu près rien. Le titre du blog. Évidemment, Livre de Poche m'a dit, mais laisse tomber, on va avoir zéro lecteur avec à peu près rien. Mais moi, à peu près rien, c'est pas rien. C'est toute la différence. Peut-être qu'il valait mieux presque rien, un truc un peu plus...
Ça a déjà été fait.
Voilà. Mais ce côté, il ne se passe pas grand-chose. Mais la chose qui se passe...
est décisive.
Elle est décisive.
Ouais, ouais.
Et tu le sauras dans 30 ans, mec.
Mais alors, ce qui est décisif aussi, c'est que maintenant, vous êtes un romancier. Wow. Comment s'est fait cette bascule, cet instant décisif, là ?
Est-ce que mais je pense que je suis pas un romancier.
Vous en avez encore un souvenir ou pas encore ?
Non, mais je ne me considère pas comme un écrivain. Ni comme... Tout à l'heure, j'ai dit écriveur. C'est une réplique de Desproges. Quand on lui demande... est-ce qu'il est écrivain ? Il dit écriveur à la limite. J'adore ce mot-là. Il dit un écrivain, c'est Maurice Genevoix qui regarde pensivement les écureuils s'enculer dans les arbres. Ça, c'est un écrivain. Et j'aime bien ce truc-là. Même si ça peut m'arriver de regarder les écureuils batifoler dans les arbres, pensivement. Peut-être dans 10 livres, je serai un écrivain. C'est un statut un peu qui m'intimide, comme les librairies. Depuis que je suis tout petit, évidemment, j'ai des profs de français qui m'encouragent, mais moi je voulais être pilote de chasse, vous voyez, astronaute.
Astronaute, oui, jusqu'au jour où.
Voilà. Et donc, ouais, non, il n'y a pas eu de bascule. J'étais super ému, évidemment, quand j'ai eu le livre dans les mains.
C'est à ce moment-là, quand même, que se fait justement cette bascule. C'est quand on tient le livre dans les mains.
C'est plus quand j'ai l'impression que les gens s'en sont emparés, en fait. Et pour en faire leur propre cuisine avec leurs propres souvenirs. Et où là, je me dis, parce qu'à la base, moi, je pensais éventuellement, avec une chance sur 1000, toucher mon arrière-petite-fille. Et encore, restons humbles. Et là, d'un coup, voilà, je vous dis, cette dame de 85 ans qui l'a lu deux fois, qui n'a pas vécu du tout les mêmes souvenirs que moi, le fait qu'elle ait été touchée, que ça ait remué quelque chose en elle... là, je me suis dit, waouh, ça, c'est cool. C'est...
Oui, il y a une scène d'ailleurs très émouvante, les dernières paroles du grand-père.
Oui, tout ça, c'est sa faute en plus. Oui, alors ça, pour le coup, parce qu'évidemment, tous ces souvenirs sont recomposés comme la mémoire. Hein, c'est-à-dire qu'on est persuadé de se souvenir de choses, évidemment, qui sont différentes de ce qu'on se souvient. Mais là, pour le coup, ce chapitre-là est totalement... il m'a vraiment fait le coup, quoi. Mmh. C'est-à-dire un mec qui est perdu dans la maladie d'Alzheimer depuis des années, qui se réveille, qui trouve mon prénom pour me dire tout passe, tout casse, tout lasse. Merci, papy.
C'est violent, hein.
Mais encore une fois, j'ai écrit ce texte-là peut-être 12 ans après à l'avoir vécu. Et pendant 12 ans, je ne me suis pas dit un jour, il faudrait que j'écrive quelque chose là-dessus. Mmh. Je ne sais pas pourquoi, à quel moment ça vient, à quel moment ça frappe la conscience.
Alors, vous avez dit aussi dans une vidéo que vous aviez eu une enfance validée par l'amour des parents.
Oui.
Et donc, pas de revanche à prendre de ce côté-là, mais peut-être une revanche du côté des mots, parce que dans plusieurs chapitres vient quand même une relation assez compliquée avec les livres, avec les mots.
Oui, mais ce n'était pas traumatique quand même. C'était, ouais, bah, j'avais deux sœurs premières de la classe qui lisaient tout le temps, et puis moi, je faisais n'importe quoi. Et j'étais, voilà. Et donc, j'ai découvert les mots. J'ai pas découvert les mots tardivement, j'ai découvert la lecture tardivement. Parce que quand même...
Sous forme de colle d'ailleurs.
Sous forme de colle, oui. D'ailleurs, j'ai la maîtresse, la professeure de français de l'époque qui m'a envoyé une carte postale qui est assez... était touchée par le truc. Ouais, donc en gros, en octobre, elle m'a collé jusqu'à la fin de l'année, préventivement, pour toutes les conneries à venir. Et je lui ai dit, vous m'ouvrez une carte blanche pour faire tout ce que je veux, puisque de toute façon je suis collé. Elle m'a dit, votre réponse valide ma décision. Donc, la punition, c'était lire.
C'est très risqué, ça pouvait vous dégoûter à tout jamais des livres.
Oui, non, mais en fait, non, parce qu'en fait, ils étaient toujours là, les livres autour de moi. Je les regardais, ils me regardaient, on se regardait, de façon bref, vous voyez. Et ben là, je les ai empoignés et puis je me suis fait avoir. Hein. Je suis tombé dans le. Et puis après, c'est devenu. C'était quand j'étais en cinquième. Donc quand je dis que c'est tard, c'est tard. Quand je vois mes filles aujourd'hui qui ont lu 10 fois plus de bouquins, je leur lisais plus alors qu'elles ont déjà lu 10 fois plus de bouquins que moi j'avais lu à leur âge.
On leur dira pas.
Ouais, plus tard. Et donc, et en troisième, la rencontre qui est encore une fois totalement banale, d'une enfance banale de d'une rencontre de Boris Vian, qui est tout sauf un auteur en marge aujourd'hui, même si de son vivant, ça l'était. Il l'était. Et cette possibilité de faire ce qu'il faisait avec les mots, c'est-à-dire de les retourner, de créer des expressions,
de jouer avec,
m'a littéralement électrocuté. Et donc là, mais c'était... il ouvrait une porte, quoi. Et là, j'ai commencé à lire comme un... on peut le dire, comme un fou furieux, où je faisais que ça en fait. Je lisais, je lisais, je lisais, je lisais, je lisais. Et c'est comme les gens, ma grand-mère s'allumait une cigarette avec, avec le mégot de la précédente. Voilà, je termine un bouquin, j'en commençais un autre. D'ailleurs, il faudrait que je relise aujourd'hui certains de ses livres, parce que je ne suis pas sûr de les avoir bien lus.
Oui,
je les ai lus trop de façon
différemment de
compulsive,
ce que
ouais. Avec cette impression de savoir rien. Et d'essayer de mettre des choses dans ce vide qui constitue mon cerveau.
Oui, et puis vous vouliez vous constituer très très vite aussi un bagage de lecture de référence. Enfin, vous faisiez une enquête déjà de journaliste.
Oui, ouais, ouais, je demandais souvent aux gens, et je le fais encore, je l'ai encore fait avant-hier. Oui. Je demande aux gens les livres qui les ont bouleversés. Une liste. Puis voilà, 5 livres, 10 livres. Et ensuite, je les lis.
Et vous envoyez l'ascenseur justement ici, puisqu'il y a L'écume des jours, il y a aussi Siddhartha.
Il y a Siddhartha d'Hermann Hesse qui m'a bien. Au fait, un autre prof de français de première qui avait juste écrit donc sur le tableau Siddhartha, Hermann Hesse, et il y avait aussi Fritz Zorn, Mars, lisez-les. Et donc c'est la meilleure façon quand on la manière d'appâter, de crocheter l'intérêt de quelqu'un. Soit il arrivait en disant, et je vais vous parler d'Hermann Hesse, qui est un formidable écrivain, il faut lire Siddhartha et tout, je pense que je n'aurais jamais lu.
Sa vie, son œuvre, la Lagarde voilà. Des Michards.
Il a juste écrit le mot, il a dit, lisez-le. Et il y avait un mystère, en fait, et le mystère provoque l'envie. Et voilà, la meilleure moyen d'atteindre une cible en amour, comme en littérature, c'est de ne pas la viser, quoi. Et là, ça a marché.
Ou de faire semblant, parce que c'était quand même du jeu. Et vous vous rendez bien hommage aussi au professeur. Moi, je recommande le livre vraiment au professeur pour les vacances, ça va les réconforter. Après la difficile période de la fin de l'année scolaire et des examens et des copies d'examens. Parce que vous les remerciez. Vous les remerciez dans plusieurs chapitres, ce qu'ils vous ont donné et ce qu'ils donnent. Un peu comme une équipe de saltimbanques.
Ouais. Ouais, alors c'est un peu immodeste. Mais en fait, je me suis rendu compte que j'étais pas si mal comme mec. Et ensuite, je me disais, pourquoi j'étais pas si mal comme mec? Alors, il y avait l'éducation de mes enfants, de mes parents, lapsus révélateur. Et puis, il y avait évidemment tous ces profs, quoi. Et j'étais leur fruit, d'une certaine manière, quoi. Et généralement, ils m'ont jamais appris des choses qu'ils enseignaient, enfin, dans le domaine qu'ils enseignaient, mais autour. Leur façon d'être, leur créativité, leur inventivité. Voilà, je les compare vraiment à une troupe de théâtre. En plus, c'est un vrai travail théâtral. Hein, moi, je suis journaliste, je passe sur une estrade tous les matins devant un public de 30 personnes ou de 25 personnes dont il faut saisir l'attention pendant je ne sais pas combien de temps, et tout en transmettant une information. C'est-à-dire que ce n'est pas juste du spectacle pour rire. Non, il faut... Et j'ai eu la chance de rencontrer, je pense que tout le monde en a cette chance-là, de rencontrer parmi tous ces saltimbanques qui sont plus ou moins marquants, un ou deux, qui vous bouleverse à plus long terme, quoi. Voilà, moi, c'était les profs de français.
Ça pourrait être l'objet d'une prochaine enquête aussi autour de vous. Quels sont les professeurs qui vous ont bouleversé?
Tout à fait.
En tout cas, je pense que ces lecteurs-là, dans votre lectorat, seront très émus de voir que vous savez reconnaître leur générosité.
Oui.
Cette manière qu'on a de lâcher les élèves à chaque fin d'année, puis de recommencer.
Voilà, c'est ça qui pour moi, je pourrais pas être prof, quoi. C'est de devoir faire un deuil annuel de 30 personnes, c'est beaucoup, quoi.
30 fois 4 aujourd'hui.
Oui, 30 fois 4, sans compter les... Voilà, surtout qu'on s'attache, on les voit évoluer, et puis ensuite, il faut les lâcher immédiatement. Donc, j'ai beaucoup d'admiration. Enfin, ça paraît encore hyper tarte à la crème de dire qu'on admire les profs, mais c'est une admiration vraiment sincère, parce que... ils construisent, ils construisent nos cerveaux, quoi. Ils construisent les gens qu'on devient. Ils sont hyper importants.
Mais vous savez trouver les mots justement sans pommade. Par exemple, page 11, quand vous dites « Il était sarcastique, mais il a labouré de livres ses élèves. Le Léviathan, le désert des Tartares, Madame Bovary, le Père Goriot, le loup des steppes, à l'ouest rien de nouveau, etc. »
Monsieur de Vernet, il m'a envoyé « On va se voir, on va déjeuner ensemble. » Et alors, lui, donc, que je n'ai pas eu. C'était le prof de français que je n'avais pas eu.
C'est encore le manque et le désir.
Et voilà, et que tout le monde avait, et en parlant avec... et donc, on va déjeuner ensemble parce qu'il a apprécié le bouquin. Et ça m'a vachement touché parce que c'est un type qui me terrorisait par son autorité intellectuelle, littéraire. Enfin, c'est une autorité, quoi. C'était, et même si je ne l'ai pas eu comme professeur, vous pouvez imaginer quelle aura il avait, quel charisme, oui. Qui dépassait
ses salles de classe. Ça s'évalue dans un établissement. Chaque année, on est noté sur sa ponctualité, son efficacité et son rayonnement.
Ouais, bah voilà. Alors lui, c'était une supernova niveau rayonnement.
Alors, vous avez dit tout à l'heure que c'était un Lego, ce livre. Mm-hmm. Et c'est vrai que cette série de courts chapitres nous donne au lecteur l'impression de picorer. Mm-hmm. Et en même temps, d'aller de surprise en surprise. Mais il y a certainement, enfin, on le sent aussi, hein, surtout vers la fin du livre, des échos. Mmh. Des résonances, des effets de justement ce parfum d'herbe coupée, par exemple, la menthe religieuse et la piscine de vos enfants qui fait écho à votre
Comme vous l'avez compris, le bouquin ne s'est pas construit avec un plan prédéfini. Il y avait des textes déjà écrits. Le plus vieux texte de ce bouquin date peut-être d'il y a 12 ans, mmh. vous imaginez. Et le plus récent de juillet dernier. Le truc, c'est que... ça ne me dérangeait pas dans la structure, parce que la mémoire, elle intervient généralement de façon tout à fait erratique, un peu comme le vol d'une mouche. Et donc, ce n'était pas très grave qu'il n'y ait pas de chronologie, qu'il n'y ait pas vous savez, de plan secret caché derrière. Bon, il y en a un, en fait, hein, mais bon, il est léger. Et donc, ça a été assez facile de reconstruire et de recréer ces réminiscences en fonction de tout ce que j'avais. Une fois que j'avais toutes mes pièces de puzzle... C'était assez facile de les biseauter pour qu'elles s'intègrent les unes dans les autres. Alors, je sais qu'il y a un certain nombre de lecteurs qui ont été décontenancés par l'absence de chronologie dans le livre. Mais je pense que c'est des gens très, très friands d'histoire qui commencent avec un début, un milieu et une fin et qui ont cru... en fait, c'est un quiproquo au départ, en fait. Qui ont cru que ça allait être une histoire avec un début, un milieu et une fin et donc qui ont été déçus. Mais pour ceux qui s'attendaient à rien... En revanche, ça choque pas. Maintenant, le prochain, qui sera des souvenirs qui s'éloignent du roman pour rentrer plus dans la dans le récit en fait, dans le récit. La structure, il y a absolument rien à voir entre les textes, à part que c'est moi qui les ai vécus. Voilà. Ce sera le contrat de lecture initiale, j'en ai parlé avec Véronique, pour qu'il n'y ait pas de quiproquo. Même si tout sera, ça sera mis... je vous parle d'un truc que je n'ai pas encore écrit. Enfin, j'en ai écrit beaucoup déjà, mais en gros, pour vous donner comment ça se construit, les trucs, là j'en suis à 200 000 signes d'un bouquin qui montera peut-être 300 000. Donc il y a quand même beaucoup de choses écrites. Mais toute la colonne vertébrale dont je vous parlais, elle dépend d'un voyage que je vais faire en tant que reporter en juillet, où je vais partir sur un cargo de Anvers à Istanbul. Parce qu'on fait un numéro spécial océan, et donc je vais raconter voilà, le flux tendu du commerce international, 90% des marchandises transitent par bateau, et à côté, eh ben, le temps qui se dilate, à l'ère du buzz, il ne se passe rien, enfin, tout est lent, tout est... Voilà. Et ce voyage en cargo, il y aura un papier dans Télérama, mais il y aura une structure pour le deuxième livre, vous voyez ? Parce que, évidemment, c'est ça qui va ponctuer les trois anecdotes d'Afrique, les trois anecdotes de... Enfin, j'espère que ce sont plus que des anecdotes. Mm-hmm. Il y a un de ces récits qui était présent dans l'herbe coupée. Il y a aussi voilà, comment se construit un livre dans la relation avec... non, c'était le Niger. Mm-hmm. Une longue histoire africaine qui s'appellera Deal With It, normalement, sur celui-là. Et Véronique, pour voir le travail avec l'éditeur, Véronique m'a dit, écoute, c'est probablement le texte le plus fort de tous, mais il n'a rien à faire là. Et je lui dis, comment ça, il n'a rien à faire là ? Et donc elle m'explique, et je lui dis, écoute, moi, pour moi, il est important parce que c'est la quille du livre qui permet à voile et à la légèreté de s'exprimer. Et elle m'a dit, ouais, ça se voit. On sent que tu t'excuses d'avoir été léger en disant, vous voyez, là, c'est dur. Et là, elle m'a convaincu, et donc elle avait raison, parce que je pense qu'en effet, maintenant, rétrospectivement, il dénotait. Et il ne dénotera pas du tout dans le deuxième, qui sera beaucoup moins universal. Enfin, évidemment, ce n'est pas des souvenirs que... C'est l'inverse, quoi. C'est tout l'opposé. C'est le pôle sud de celui-là. Ouais. C'est un peu sa face sombre, hein, sa face cachée, avec des moments drôles aussi. Mais les mêmes instants disséqués, mais des instants, pour le coup, pas du tout fictionnisés. Je ne sais pas comment dire, je crée un néologisme, mais je ne sais pas comment... Enfin, pas réinventés, puisque ce sont des éléments de reportage, des éléments de réalité, mais qui construisent le même genre de chapelet d'instant qui forme un collier au bout du compte, enfin j'espère.
Oui, là on a cette impression de boucle effectivement aussi. La boucle est bouclée hein, dans le dernier chapitre, on sait que c'est le dernier chapitre et on le regrette d'ailleurs parce que c'est un peu comme dans Forrest Gump quand il dit que la vie est comme une boîte de chocolat, on ne sait pas sur quoi on va tomber. C'est un peu la même chose quand on tourne la page, on ouvre un nouveau chapitre et
on se demande ce qui va se passer.
Quel bonbon on va sucer, voilà, c'est un peu ça, hein, le plaisir du lecteur dans ce livre. Mais vous dites léger, c'est pas si vrai, c'est-à-dire que vous écrivez de manière parfois burlesque, mais sur des choses très très graves. Par exemple, le chapitre « Je sais », Ça se passe dans les cabinets, donc effectivement, c'est plutôt drôle, burlesque. Mais là, vous découvrez quelque chose de tragique, enfin, qui vous a frôlé.
Vous savez, il y a même un mec qui a fait une critique assez drôle, une des plus violentes que j'ai lues, sur le bouquin dans Babelio, je l'ai vu, où il dit que le livre est un livre empreint d'un nihilisme total. On passe de la mort du chien à la mort du grand-père jusqu'à la mort du copain. Et il a raison, tout ce qu'il
c'est
dit
vrai,
est vrai.
Exactement, c'est vrai.
C'est vrai que tout est balayé par des tragédies discrètes, mais qui sont là quand même. Quand même, quand je parle de la première pelle, on est loin de la tragédie. Oui, il y a quand même aussi des trucs, plus joyeux. Mais de la même manière, dans le deuxième bouquin, ça sera que des tragédies, quasiment. Enfin, pas que, j'espère. Mais beaucoup de tragédies qui ne me concernent pas, hein, des tragédies dont j'ai été témoin. Mais dans ces tragédies, il y a des choses extrêmement drôles. Et extrêmement drôles. Pas parce que j'en ai fait des choses drôles. Elles sont objectivement drôles. Juste, je les relate. Et dans des pays en guerre, dans des zones... Mais c'est drôle. Oui. Et c'est, j'adore cet entrelacement, c'est comme le sucré salé.
C'est ça.
Ça crée des émotions, mais pas des émotions animales. Enfin, j'ai rien contre les animaux. Mais des émotions.
Il y en a beaucoup d'ailleurs dans le livre.
Hein. Ouais, mais des émotions que j'espère un peu qui éveillent, quoi.
Oui, le menu est épicé en fait.
Oui, voilà, c'est ça. Il y a des...
Et puis il y a aussi des sauterelles.
Il y a des sauterelles, les pauvres sauterelles.
Voilà, les sauterelles qui meurent en série. Oui. Mais c'est souvent le cas avec des expériences de gamins. Et voilà, la mante religieuse aussi qui clôt le livre.
La mante religieuse, mes filles ont pris le relais. Ouais.
Voilà, on voit bien que la suite, le relais est pris. Et il y a cette chaîne des générations aussi qui est très touchante hein, dans la lecture, puisqu'il est question, encore une fois, de cette hypothétique arrière-petite-fille, ou arrière-arrière-petite-fille, qui fait penser aussi à Pierrette Clotiot, je ne sais pas si vous l'avez lu.
Oui.
Elle a écrit un livre qui s'appelle Loli, le temps venu, qui a été présenté ici aussi chez Mola il y a un an ou deux, et où elle inventait elle aussi une descendante très très lointaine en fait, à qui elle écrivait ses souvenirs, enfin pas exactement ses souvenirs.
J'ignorais ça.
Une description de la vie actuelle.
Ça en fait c'est venu vraiment dans la construction. La première fois que j'ai les premiers textes, je parle d'Anna et je dis juste j'aimais pas les profiteroles et ça s'arrête là. Je reparle plus d'Anna dans les autres textes. C'est quand Véronique m'a demandé d'en écrire d'autres que j'ai commencé à réfléchir à quelle ligne rouge j'allais pouvoir bien tirer pour essayer d'unir tous ces c'est le fil du chapelet dont je parlais tout à l'heure, du collier dont je parlais tout à l'heure. J'ai j'ai fait des sciences avant de faire du journalisme. Donc j'étais très mauvais, hein, mais j'aimais bien les sciences, j'aime toujours les sciences. Et cet aspect moléculaire en fait de la descendance, le fait que les atomes qui nous composent d'hydrogène sont nés au moment du Big Bang et que c'est pas juste une expression du Barry pour faire rêver, c'est la réalité que tous les atomes organiques qui nous composent ont été synthétisés au cœur des explosions. De géantes bleues dans des supernovas, on parlait de supernovas tout à l'heure. Donc, je sais que les atomes, que c'est vrai, les atomes d'Anna sont peut-être dans ce micro, certains, ou dans vos lunettes, ou sur votre nez. Et je trouve ça fascinant, en fait. Et de savoir, moi, que je serai plus tard peut-être un verre dans lequel quelqu'un boira un coup, enfin, d'être en partie dans ce verre-là, qui est une réalité scientifique, me fascine. Et quand j'ai eu cette idée-là, ensuite, ça s'est déroulé assez naturellement.
Oui, et ça aussi, vous le racontez de manière très drôle. Enfin, je ne retrouve pas le chapitre là, enfin le passage exact dans le chapitre Lettre à Anna, mais vous parlez du camembert, enfin de ce qui est sur la table à ce moment-là.
Oui, les choses les plus.
Les choses les plus.
Oui, parce que la réincarnation, c'est pas forcément en tigre ou en aigle.
Oui, royal, voilà, c'est autre chose que la métempsychose classique, quoi. Voilà.
Mais non, mais c'est. Je vais vous raconter une histoire qui. Ça se trouve, elle va être complètement inintéressante, mais c'est pas grave. Et elle fera probablement partie du prochain chapitre. Moi, j'étais fasciné par les étoiles, très tôt, plus vite que par les mots. Et parce qu'on m'a offert un bouquin d'Hubert Reeves, Poussière dans l'azur ou Poussière d'étoiles, je sais plus lequel. Patience dans l'azur. Et pendant très longtemps, j'ai regardé le ciel, j'ai appris les constellations, je connaissais tout le ciel par cœur. Je lisais des bouquins de cosmologie, et vraiment, ça me fascinait, ça me passionnait. Et je ne comprenais pas que les gens ne s'y intéressent pas, en fait. Ça me paraissait fou. Et puis, un jour, j'ai commencé à ressentir une forme d'angoisse, en fait, en regardant le ciel, à force de confronter juste cet amour du ciel et la réalité scientifique et des chiffres du ciel, de son immensité, de sa... Et j'ai commencé à avoir peur du ciel, en fait, et à trouver ça en dehors de moi, et angoissant, en fait. Vraiment, l'espace est vide de sens et m'angoisse. Donc, j'arrête d'aller le regarder. Et je crois que c'est il y a 5-6 ans, je ne sais pas quelle maison d'édition, a réédité Poussière d'étoiles, Poussière Patience dans l'azur, en minuscule comme ça. Je l'ai reçu au journal. Et je suis parti avec pendant l'été. Et en plus, pendant toute cette période-là, j'ai eu affaire à Hubert Reeves plusieurs fois en tant que journaliste. Et ce n'était pas un type que j'ai apprécié humainement. Pour les raisons, probablement, il a probablement de très bonnes raisons. Mais peu importe. Donc, c'était un mec qui était très, très haut. Voilà. Et j'ai relu ce bouquin-là pendant l'été. Et en fait, j'ai relu tout ce que je savais déjà, mais sous la plume d'Hubert Reeves. Et tout ce que je vous ai dit tout à l'heure à propos des atomes, quoi, j'ai compris que je faisais partie de cette espèce de cirque géant. Que ce n'était pas loin, éloigné de moi, hors de moi. J'étais ces étoiles.
C'est la danse du vivant.
Elles étaient moi. Mmh. Et du coup, Hubert Reeves est remonté très haut dans les sondages. Et il est toujours très haut aujourd'hui. Mmh. Et je ne sais absolument pas pourquoi je vous raconte ça. Parce que... pourquoi je vous raconte ça? Je ne sais plus. J'ai dit que c'était... on parlait de quoi? C'était quoi la question?
On parlait des atomes qui se recomposent et d'une nouvelle forme scientifique de la métempsychose qui voilà. Fait qu'on fait partie de la danse vivante. Enfin, c'est voilà. Un autre scientifique qui a cette expression aussi.
Tout est lié. En fait, ce que je raconte... Donc,
ça vous désangoisse, cette
espèce... Oui, je suis totalement en connexion avec... Et d'ailleurs, j'adore quitter Paris et aller... Et aller courir tout nu dans la forêt parce que j'aime ça, quoi. J'aime être en connexion avec la nature. C'est pas la nature, c'est moi, quoi. C'est nous tous. Et je pense qu'on en souffre tous de ça, de cette déconnexion. Mais bon, je vais pas partir sur un. Mais attendez, je voulais dire un autre.
Hubert Reeves défend la planète en ce moment.
Oui, mais voilà, c'est un corps dont on fait partie, quoi. On est un organe de la Terre. Et. C'est un truc qui m'échappe, hein. À chaque fois, elle revient et elle s'en va au moment où je veux le dire. Donc, je ne sais plus. Je crois que je voulais dire que je ne sais plus du tout ce que je voulais dire. Donc on va laisser passer, puis ça va revenir au moment où je ne m'y attendrai pas.
Oui, voilà. Alors peut-être que là, on touche au mystique, justement, même si c'est totalement absent, en tout cas dans l'écriture, mais il y a quand même peut-être sous-jacente cette angoisse existentielle ou cette crise de la quarantaine, peut-être.
Et puis un bon vieil héritage slave, vous savez...
Voilà, Anna ne s'appelle pas Anna par hasard non plus. Voilà. Et Kolia, le narrateur...
Donc des origines aussi, russes qui poussent à être un peu drama queen, un peu à être capable de trouver dramatique un verre d'eau. Quoi. Mais moi je me soigne très bien de ça. Mais ouais, c'est vrai que puis y a les conseils de Rilke, un jeune poète, vous savez, c'était.
Oui, l'être un jeune poète.
Il y a de la poésie absolument partout, quoi. Il suffit juste d'acérer son regard et on la trouve. Chacun la voit. Ouais. Ça m'énerve parce que je suis focalisé sur ce que je cherche. Et
oui, je comprends.
On parlait des atomes.
Oui, exactement. Alors, on pourrait aussi dire que le livre a une sorte d'aspect atomisé, ou en tout cas de constellation, relié par des forces de gravité mystérieuses, mais qui s'équilibrent. C'est un peu ça aussi.
Oui, j'espère. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que j'ai voulu qu'il soit, avec l'aide de tout le monde. Hein. C'est un bouquin collectif.
Comment ça se passe justement le travail entre voilà, l'écriture que vous dites finalement facile comme un verre d'eau, spontanée, mais pour arriver à un volume en librairie, j'imagine qu'il y a eu un travail collectif peut-être, en tout cas en partenariat avec
Alors, là-dessus,
Véronique Tarny.
Sur l'écriture, pas du tout, à part sur des répétitions, sur des petits trucs... des redondances qu'il fallait effacer ou des voilà sur la disparition de textes, il y a des textes qui ont disparu parce que soit ils étaient trop anecdotiques ou pas assez on peut pas être d'ailleurs tout est inégal, mais tous les textes sont pas évidemment aussi forts les uns que les autres, mais il y en avait qui étaient moins bien. En revanche, sur la structure même des phrases, la réécriture, il y a eu quasiment aucun travail, il n'y a pas eu de travail. En revanche, et en tant qu'écriveur, encore une fois, j'ai eu l'expérience précédente avec 8 de ces textes, avec Jean-Baptiste Gendarme, qui était écrivain à La Blanche, chez Gallimard et qui m'a repéré, donc avec qui j'ai travaillé les 8 premiers textes qui ont été publiés chez Storylab, qui lui a été beaucoup plus interventionniste. Et ça a posé des problèmes parce que, je pense parce qu'il était écrivain en fait, mais il n'était pas éditeur. Et donc il avait des façons, par exemple, lui il ne supporte pas qu'on écrive « il y a ». C'est très subjectif. Et donc là, il y a eu, voilà, mais ça s'est très bien passé, hein, on est copains avec Jean-Baptiste. Mais et puis moi, je suis journaliste, donc je sais que ce que j'écris n'est pas écrit dans le marbre et qu'on passe notre vie à couper, à resserrer, essayer d'être plus efficace. Les avis des uns et des autres sont importants. Moi, j'aime bien le travail à l'américaine, hein, ce côté 5 mètres, ce mec autour d'une table et essayer de raconter une histoire. Qu'est-ce qu'on fait? Et ils arrivent à faire des chefs-d'œuvre. Si vous avez que regarder The Wire, la série The Wire, elle est fabuleuse dans son écriture, dans son voilà. Je parle même pas des succès d'aujourd'hui, mais toutes ces séries sont admirablement bien écrites, et je trouve que la littérature a tout à s'inspirer contemporaine d'aujourd'hui, a tout à s'inspirer, tout en trahissant pas ses racines. Je ne vois, hein, pour s'inspirer de cette efficacité-là dans la transmission.
Et justement, dans la nouvelle collection Prélude, à part Marc Fernandez et vous, il y a surtout des auteurs américains ou anglo-américains. Mmh. Est-ce que c'est justement pour tenir compte de cette écriture contemporaine?
Alors, je ne sais pas. Ça, il faudrait le demander à Véronique Carny, mais elle a toujours un tropisme anglophone, puisqu'elle a traduit aux escales avant de... Enfin, elle a fait traduire aux escales beaucoup de livres étrangers, notamment anglo-saxons, mais aussi allemands. Et donc elle s'occupait de littérature étrangère, donc c'est ce qu'elle apporte, j'imagine. Alors là, c'est ma réponse, si ça se trouve, elle me dit « mais qu'est-ce que tu racontes ?» Elle serait là, elle dirait « qu'est-ce que tu racontes ?» Mais je pense que c'est ça, c'est ce qu'elle apporte en plus au livre de poche, c'est sa grande connaissance de la littérature étrangère, sa faculté à avoir un nez pour repérer des plumes qui seraient bien traduites et qui pourraient intéresser le lecteur français. Je pense pas que on en a jamais parlé de l'efficacité de la narration. Bon, probablement. Il y a quand même des types gros comme ça qui mangent des hot dogs et qui ont des moustaches et qui écrivent mieux que vous, quoi. C'est impressionnant. Qui racontent des histoires. On les croirait garagistes ou texans, mais non, pas du tout. Ils savent super bien raconter les histoires. Game of Thrones est incroyablement bien raconté. Les dialogues, les conflits. Alors, c'est un peu un Santa Barbara en costume, mais enfin, il parle beaucoup quand même dans Game of Thrones, mais l'écriture des dialogues est incroyable et bien supérieure à ce qu'a pu faire la grande partie de la nouvelle vague française, beaucoup de films français. Enfin, moi, je préfère ça, quoi.
Alors, c'est un plaisir. D'un autre type, sans doute, que ces dilemmes moraux dans les séries que vous venez d'évoquer, qu'on peut goûter à la lecture de Un parfum d'herbe coupée, qui se retrouve participer au prix relais des voyageurs lecteurs 2015. Et on a jusqu'au 18 juin pour voter. Et donc, on peut voter Nicolas de Le Salle. Et en tout cas, je vous invite.
Faites voter tout le monde, votre chat, vos chiens, tout le monde.
Je vous invite en tout cas à le lire parce que c'est vraiment un bonheur de lecture, parce que c'est un bonheur d'écriture. Merci Nicolas
de Le Salle. Merci beaucoup. Merci à vous.
Merci encore.